Voilà. Vous me voyez toujours avec ça. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que dans mon travail séculier, je suis en contact avec des gens particulièrement vulnérables et j'aimerais tellement pas leur communiquer un Omicron. Alors, quand on est beaucoup, la probabilité que ça circule est quand même plus élevée. Donc, je mets un masque. Je vais commencer par le psaume 131 que j'ai transformé en prière et puis on peut mettre le premier slide. Voilà. Je vais simplement le prier. Éternel, que nos cœurs ne s'enflent pas d'orgueil et que nos yeux ne visent pas trop haut, que nous ne nous engagions pas dans des questions trop grandes, trop élevées pour nous, au contraire, que nous restions tranquilles, silencieux, dans le calme, que nous soyons comme un nouveau-né rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé, que nous mettions tous notre espérance en toi, notre Dieu éternel, dès maintenant et pour toujours. Et j'aimerais, dans ces temps tourmentés, apporter un message très simple, mais aussi de paix, mais aussi en même temps de témoignages plus personnels de comment je vis ces temps tellement tourmentés qu'on traverse ces dernières années, on peut dire. Et puis ce qui m'aide, ce que je peux pomper à l'écart dans la présence de Jésus. C'est aussi l'occasion pour moi de me faire connaître un peu plus en vérité de qui je suis. Parce que je crois que si on veut vivre l'unité, la communion, ben c'est important en moi. Alors c'est vrai qu'il y a un mois, Roland m'a demandé, j'essaye, non ? Je vais réessayer. Ah, voilà. Roland m'avait demandé, est-ce que tu serais d'accord de parler du sujet gris à l'église ? Et puis j'ai dit, écoute, volontiers, j'étais tout enthousiaste, sauf que suivant ce qui va arriver, je me suis dit, j'aime pas être enfermée d'avance. Et puis dimanche dernier, j'ai espéré que Roland il avait oublié son annonce, sauf qu'il l'a faite. Et je me suis retrouvée coincée en me disant, ben voilà, il faut que j'y aille. Surtout que hier, je passais ma journée à parler dans un groupe sur la question du genre. On a témoigné à Genève et je me disais, ben, d'une pierre deux coups. Sauf que chaque fois que je me mettais à l'écart dans la présence de Jésus, ben non, ça ne venait pas. Mais d'une certaine façon, oui, quand même. Alors, pourquoi je suis intéressée par les questions gris ? Ça s'est passé la première semaine de femme de pasteur quand j'avais 19 ans et que dans le premier entretien, premier souper chez un couple de l'église, l'homme annonçait qu'il allait quitter sa femme parce qu'il avait une maîtresse. Je ne vous dis pas, je n'étais pas du tout préparée à ça, Roland non plus. On a pris ça de plein fouet. On a réalisé que ça fait longtemps que cette personne vivait une double vie. Et ce qui m'avait frappée, c'est le nombre d'années qu'il avait tout fait pour vivre selon la parole de Dieu, pas dans l'adultère, et qu'il n'a pas réussi, qu'il a basculé de l'autre côté, puis qu'il nous en a parlé une fois que les choses, les carottes sont cuites, comme on dit. Et je me suis rendu compte, en tant que femme de pasteur, qu'on perd énormément de personnes, de frères et sœurs, qui se retrouvent dans cette situation où d'un côté, ils sont attachés à la parole de Dieu. Au bout d'un moment, ils n'arrivent pas à ne pas pratiquer leurs pulsions, ils basculent dans le fait de pratiquer ces choses sans en parler. Et puis un beau jour, ça devient tellement fort, et puis pour ne pas être jugé, bah, ils quittent l'Église, et parfois ils quittent même la foi, si ce n'est pas Dieu lui-même, où ils essayent d'en parler, ils se sentent jugés, et puis voilà, le résultat est un petit peu le même. Ou bien il y a une double vie qui s'installe. Et puis l'autre raison pourquoi ça m'a intéressée, c'est que moi-même, je suis concernée exactement par ce même combat et toute ma vie a été impactée par mes propres brisements qui touchent à mon genre, qui s'est répandu dans mes relations, qui a où j'ai dû faire tout un travail dans la présence de Dieu pour découvrir mais qui je suis au milieu de tout ça, comment j'arrive à m'identifier, et aussi dans mon couple, dans ma sexualité. Et puis, où on vit nos pires entre le côté libéral, simplement, où on vit nos pulsions, ou au contraire, d'être dans cette ligne de « tu dois, il faut, il n'y a qu'à », ou bien de concilier les deux par une double vie, pour moi, en tout cas, ce n'était pas cohérent. Que je parle de ça, je me sens comme ça, sur une crête, à essayer de trouver un chemin au milieu, et je sais, dans pas mal de mes amis, qu'on se sent comme ça, sur un chemin très, très, très étroit, où on doit suivre Jésus et faire attention de ne pas basculer d'un côté à un autre. C'est un des endroits les moins confortables, parce qu'en même temps, on peut être la cible des chrétiens qui sont très légalistes ou très libéraux, parce qu'on est là au milieu, mais aussi aujourd'hui par le monde. Et je dois vous dire sincèrement que je n'ai jamais ressenti autant d'anxiété par rapport à ces sujets-là, moi qui, voilà, qui accompagne d'autres personnes, qui suis accompagnée par d'autres personnes, et je ne suis pas du tout la seule. Et en fait, de s'occuper de ces questions grises génère chez des personnes comme moi vraiment beaucoup de stress et d'anxiété, entre autres à cause de la crainte de la persécution, de ramasser des coups, tout simplement. Je pense que cette crainte, elle est très présente chez beaucoup de chrétiens qui, justement, n'en parlent pas, parce que je me rends compte, quand je vais dans les endroits où je suis invitée, à quel point la crainte, si ce n'est pas la terreur, n'est pas présente et très présente. Ça touche beaucoup de monde et c'est peut-être pour ça qu'on en parle si peu. C'est quand même le sujet dont on parle le plus à l'extérieur, à part le Covid et la guerre. Et c'est le sujet dont on parle le moins dans l'Église. Donc, je trouve très important de pouvoir en parler dans l'Église. Et j'ai vraiment à cœur d'apporter aussi des messages et de venir aussi peut-être avec des amis témoigner de ces sujets-là. Sauf que là, avec ce qui se passe en Ukraine, et c'est une autre source d'anxiété, je me suis dit, est-ce que je fais bien de centrer ce culte que sur ce message-là, sur ce thème-là, alors que moi, je suis très poreuse à ce qui se passe autour de moi et je me rends compte que régulièrement, des gens du monde, des gens proches viennent me dire « Est-ce que ça t'inquiète, cette guerre qu'il y a en Ukraine ?» Exactement la même question qu'on posait pour le Covid. « Est-ce que ça te fait peur ? Tu penses qu'on va gicler où avec le Covid ?» En fait, je ne sais pas si on se rend compte à quel point on est baigné dans quelque chose de hyper anxiogène en ce moment, et que nos contemporains prennent de plein fouet. Et ça a une répercussion dans leur vie de chaque jour. Et on a besoin de ne pas être paralysé de crainte et de pouvoir répondre, d'être témoin au milieu de cette question-là. J'ai posé la question avant, est-ce que vous savez dans quel pays au monde il y avait le plus de suicides pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Vous le savez peut-être, mais c'était en Suisse. Pour une raison toute simple, c'est que la Suisse absorbait toutes sortes d'informations qui normalement devaient les mettre en mouvement pour pouvoir faire quelque chose. Et ce stress accumulé, eh bien, où ils ne pouvaient rien faire, ça a été le plus destructeur qui soit. Et moi, il me semble qu'on est de nouveau dans une situation comme ça. Et si on aime notre monde et ceux qui nous entourent, il faut vraiment qu'on en tienne compte, aussi en tant que témoin. Alors, je suis très touchée par les larmes de Laszlo, parce que pour nous qui sommes de la Hongrie, du reste la Hongrie a une frontière commune avec l'Ukraine, hein, si on est là, moi si je suis là, c'est parce que mes parents ont justement fui l'envahissement russe dans leur pays, sinon je ne serais pas là. Et j'ai été baignée dans les histoires de Russes et de nazisme depuis que je suis née. Et ça crée aussi beaucoup d'anxiété, je dois le dire. Et puis la persécution aussi, ça a un grand impact sur moi parce que du côté de mon père, c'est les nazis qui ont persécuté la famille de mon père, dont beaucoup ont été massacrés. Et du côté de ma mère, eh ben, ça a été le communisme, où ils ont connu la déportation, la prison, les travaux forcés. Donc c'est pas étonnant, c'est presque génétiquement. Voilà, et beaucoup de réfugiés dans nos pays, beaucoup de migrants, d'étrangers sont en train de vivre ça. Et je crois que c'est important qu'on en parle. Puis on est très sensible à la guerre en Ukraine parce que voilà, ça a quelques heures de vol de chez nous, puis c'est l'Europe. Mais est-ce qu'on se rend compte que dans les pays d'Afrique ou ailleurs, il y a eu des guerres, mais où en quelques minutes, il y avait autant de morts qu'en 15 jours en Ukraine. Et puis on n'a pas beaucoup réagi. Hein. Voilà. Donc ces informations, elles sont là. Et puis ces temps, alors Jésus il m'appelle dans sa présence pour m'enseigner, et puis je vais juste mettre au tableau les quatre causes que moi je trouve de source d'anxiété parmi ceux qui nous entourent. C'est l'environnement, la Covid, la persécution et la guerre. C'est vraiment quelque chose qui est là, et la persécution, ça ne touche pas du tout que les chrétiens. Les gens, ils ont peur de s'exprimer, par exemple, sur les sujets gris. Ils n'en pensent pas moins, mais ils n'osent pas, à cause de mouvements militants qui sont très forts. Hein. Puis il y a des gens non chrétiens, très très connus, qui n'osent même plus sortir de chez eux, qui sont menacés de mort pour avoir juste exprimé un avis un tout petit peu différent du grand lobby militant qui existe actuellement et qui viennent des fois de ce lobby-là, justement, ça, c'est très intéressant. Alors il m'appelle et je me disais, mais ça jaillit dans mon cœur que pour ces quatre sujets, c'est en fait, il existe des textes dans la Bible qui en parlent. Et je les ai notés là. Je ne vais pas vous les lire parce que justement, c'est très anxiogène. Je me suis dit, on n'est pas là pour plomber l'atmosphère. Et Jésus, quand il a donné ces différents textes, ça s'est passé le mardi avant Pâques. Il était juste avant les pires moments de sa vie et il s'inquiétait pour ses disciples. Il était rempli d'amour pour eux et voulait leur donner des clés pour ces temps qu'on est en train de vivre justement aujourd'hui. Alors, si je ne vous les lis pas, c'est parce qu'en fait, Jésus décrit ce qu'il suffit de cliquer sur une info qu'on entend absolument continuellement depuis déjà des années, et des infos dont on est submergé. Et Jésus, s'il décrit ces choses, ce n'est pas justement pour nous faire peur, mais c'est pour qu'on repère ces temps-là et qu'est-ce qu'il nous dit justement. Alors, le travail que j'ai fait, c'est de retenir les clés que Jésus nous donne pour ce temps d'aujourd'hui et qui peuvent vraiment nous aider aussi à être témoins. Moi, ça m'aide en tout cas. Voilà, il a dit ce texte, je vous ai montré le Mont des Oliviers juste avant, parce qu'il il venait de sortir du temple et puis il remontait les pentes des Oliviers en face de Jérusalem et c'est là qu'il a parlé. Alors on trouve, la première chose, c'est de faire attention, qu'on ne se laisse pas égarer, pas induire en erreur, de ne pas écouter ce qu'on nous dit, de ne pas croire quand on nous dit « le Messie est là ». Ou bien quelqu'un nous dit « je suis le Messie ». Donc au cœur de tout ce qui ne va pas, c'est comme si on recherche des portes de sortie. Et de dire, c'est comme si Jésus nous disait « attendez, à ce moment-là, le plus important pour vous, ce n'est pas que vous vous agitiez, que vous couriez à droite et à gauche, et justement de... comment dire, de me rechercher moi autrement que par la foi. En fait, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Je suis la porte, la seule porte que vous pouvez franchir et continuer à croire en moi par la foi. Et moi, ça me touche beaucoup parce que même en tant que chrétien, des fois, on crée nos portes de sortie pour ne pas traverser l'épreuve et pour essayer des portes de solutions qui vont nous soulager. Et puis, C'est comme si Jésus nous disait, moi je suis invisible pour le moment et ne perdez pas votre énergie pour autre chose que cela. Et compris dans ces cris, dans Matthieu 24, 27 à 30, où Luc dit ça, donc ça, c'est compris dans ces textes que je vous ai dit avant, c'est que quand je reviens, eh ben, tout le monde va le savoir. Ce sera comme un éclair, ça viendra de l'Orient, de l'Occident, il n'y a personne qui pourra l'ignorer. Et ça, ça fait du bien de savoir, moi, que je m'approche de mes personnes âgées et ceux qui s'en sortent particulièrement bien et que je leur pose la question, mais c'est quoi qui vous a le plus aidé dans votre vie pour traverser les difficultés? Ils disent la première chose, c'est l'acceptation. Parce que comme ça, on garde notre énergie pour faire face plutôt que pour fuir ou espérer que les choses soient autrement. Et en même temps, donc Jésus ne nous enferme pas là-dedans puisqu'il nous dit, il donne des conseils très pratiques dans certaines situations, qu'il faut fuir, qu'il faut prier. Enfin, ce n'est pas du tout qu'on ne fait rien. Mais la première chose, c'est vraiment de nous dire que dans ces moments difficiles, j'allais dire Jésus seul. Et puis il est là, il comprend exactement ce qu'on est en train de vivre et qu'on ne fuit pas. Loin de lui ou dans des choses secondaires. La deuxième chose qu'on retrouve aussi plein de fois, c'est ne vous troublez pas. Faites attention de ne pas être terrifié, de ne pas vous effrayer. Et le mot trouble, on le retrouve. Hein, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, que votre cœur ne se trouble pas. Et moi, ça me fait penser à une rivière toute limpide. Et puis, si on prend un bâton, eh bien, on... l'eau se trouble et puis on voit plus rien, c'est confus. Et on doit attendre un moment pour que ça redevienne transparent et qu'on voie de nouveau. Et il me semble que pour ne pas être troublé, on a aussi à se protéger d'être hyper informé. Parce que une façon de maîtriser notre trouble, et beaucoup de gens l'ont fait, par exemple, pendant le Covid, et le font maintenant pendant la guerre, ils passent des heures et des heures et des heures à essayer de maîtriser leurs craintes en écoutant les infos, comme s'ils pouvaient contrôler la situation en étant le plus au courant possible. Le problème, c'est que ça fait l'effet du trouble, justement. Alors qu'on est comme appelé à venir à l'écart avec Jésus, moi, ça me fait penser à Marthe et Marie. Marthe qui s'agite, puis Jésus qui dit, mais c'est Marie qui a choisi la bonne part. C'est de venir à mes pieds et puis de laisser les choses descendre. Ça, c'est la bonne part, de me faire confiance, de pouvoir pomper ma confiance que j'ai en Dieu et dans l'éternité, dans tout ce qui va se passer, et qui veut nous donner notre paix, devenir notre paix, nous la donner pas comme le monde nous la donne, justement. C'est ce repos en Jésus. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et je pense que c'est un peu à n'entendre plus rien, s'éloigner de trop d'informations. Ce n'est pas qu'on ne veut plus rien entendre, plus rien voir. On sait un minimum important pour nos prières et notre amour. Mais après, c'est important d'être au pied de Jésus. Après, les chrétiens qui sont dans des très, très grandes difficultés nous enseignent qu'une des choses importantes, quand on a subi un choc ou qu'on a quelque chose qui nous agite, qui nous fait peur, c'est de retrouver le plus possible la paix. Et aujourd'hui, on sait ce qui se passe à l'intérieur de nos corps quand on subit un stress. On va produire des hormones de stress. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de façons de produire l'inverse des hormones qui vont nous apaiser. Et le monde les enseigne et souvent, nous, on les utilise pas. Mais il y a même quelqu'un avec qui je discutais de ça, qui fait partie du comité de Porte Ouverte, qui disait, mais est-ce qu'on ne devrait même pas enseigner à nos frères et sœurs dans le monde aussi des techniques, par exemple, de respiration, des choses toutes ça, mais qui peuvent produire quelque chose qui leur fait aussi du bien. Physiquement, est-ce qu'on a pensé à des choses comme ça? Mais, par exemple, aller dans la nature, faire une balade, on a le privilège de pouvoir le faire. Moi, je vais me baigner dans le lac froid. Eh ben, je sais que ça produit des endorphines, mais un bon bain chaud aussi. Enfin, beaucoup de choses, comme pour collaborer avec Dieu, ben, le rire, par exemple, puisqu'on peut le faire. pour qu'on soit suffisamment des bons témoins aussi pour notre monde à nous qui est en train de tellement s'agiter. Parce que si on ne collabore pas avec Dieu pour notre paix, comment on veut faire envie à ceux qui sont agités si nous-mêmes on l'est? Donc je crois que c'est notre part aussi, dans la mesure du possible, de collaborer avec Dieu pour ça. Le point suivant, c'est par rapport à la persécution, justement, par la peur de l'hostilité. Ça peut revêtir beaucoup, beaucoup de formes. Hein. Ça veut dire oser être vrai, de la justice, dans nos lieux de travail, dans notre famille, où on ose dire ce à quoi on est attaché. Et puis, on peut avoir peur de ça. Bah, Jésus nous dit, mais se mettre dans la tête de ne pas nous préparer à l'avance ce qu'on aura à dire, d'inscrire dans nos cœurs, de ne pas anticiper, d'avoir cette ferme conviction qu'on n'aura pas à se préoccuper de notre défense. Et il dit, c'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles, qui vous donnera des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Et moi, ça me touche parce que d'en arriver là, ça demande beaucoup de temps dans la présence de Jésus. Justement pour lui parler et dire comment on aimerait oser parler, comment on oserait dire les choses. Parce que d'un côté, on peut soit asséner des vérités et puis agresser, soit au contraire être rempli d'amour, mais on n'ose plus dire les choses. Mais c'est dans la présence de Jésus qu'on s'y exerce, et dans la présence peut-être de frères et sœurs, on prépare notre psy. Ce n'est pas qu'on prépare d'avance ce qu'on va dire, c'est qu'on prépare notre cœur à être paisible face à ces mots, à cette attitude qu'on a à vivre en direct. Et justement, ça ne va pas être des choses apprises par cœur, ce n'est pas ça que Jésus dit. Mais c'est nos cœurs qui vont parler, puis on a la conscience tranquille de dire ces choses. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez claire par rapport à ce sujet, mais c'est une chose d'apprendre par cœur, c'en est une autre, d'avoir l'habitude de dire les choses qui sont dans nos cœurs. Voilà. La prochaine chose que Jésus nous dit, c'est de prendre garde à nous-mêmes, de faire attention à nous-mêmes. Et ces recommandations, elles touchent trois domaines. Ça touche la sobriété et la paix intérieure. Première chose, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais c'est une nourriture trop riche, trop grasse, trop salée, trop nombreuse, trop sucrée, parce que ça va nous alourdir, on ne va pas être bien, on ne va pas être au taquet. C'est quoi ça? Et Jésus, il a dû penser à notre Occident et à notre monde d'aujourd'hui, parce que ce n'était pas toujours valable, hein, ça. Et ce n'est pas valable dans tous les pays. Mais ça nous concerne, nous. Et c'est vraiment un défi, moi, je trouve, parce que la pub fait que où qu'on aille, mais aussi notre culture fait qu'on est en train tout le temps de surcharger l'organisme. Et c'est une très grande tentation aussi pour nous apaiser dans notre stress. Et beaucoup de gens en souffrent, hein, autour de nous. Et parfois, moi, il m'est arrivé de prier pour des non-chrétiens pour qui c'était un défi, pour que Dieu les aide dans ce défi-là, parce qu'ils y sont jamais arrivés. Et puis leur expliquer que justement, dans la présence de Jésus, on peut trouver cette paix qui nous ôte peut-être ce besoin boulimique compulsif qu'on peut avoir. Puis les boissons, ça concerne l'alcool. J'irais, moi, ça touche toute la famille des substances qu'on peut prendre pour s'apaiser autrement que s'apaiser par Jésus et par la communion avec lui et des frères et sœurs bienfaisants. Et vous savez que la consommation d'alcool chez les jeunes en ce moment, il est en train de monter en flèche. Et ils sont en train certains de se saouler. Et au début, c'était une fois par semaine. Ils disaient, on peut quand même se donner le droit avec le Covid et la jeunesse qu'on nous a volée. Et puis maintenant, c'est 2 jours, 3 jours, et certains disent que ça coule sur leur semaine. Et des gens qui ont des problèmes avec les substances, eh ben, ça augmente. C'est un sujet de prière pour nous aussi, hein, de savoir ça, que ça se passe ça dans le monde. Et la troisième chose, c'est les soucis, les tracas pour les choses de la vie. Je ne comprends pas pourquoi ça fait comme ça. Et là, je pense qu'on a besoin de se désencombrer, vraiment, pour qu'on puisse se centrer sur les revenus. Jésus nous dit, prenez garde, je vous ai prévenu pour ces choses-là. Et ça peut être vraiment un sujet de prière pour nous, mais aussi qu'on soit une aide pour les gens qui sont en difficulté autour de nous. Après, il y a une partie, moi, qui me touche beaucoup, c'est le nombre de fois, et c'est plein de fois où c'est marqué de veiller, d'être sur nos gardes, d'être prêt, de rester en éveil, d'être vigilant. Et c'est pas, je ne crois pas que Jésus est en train de nous dire « Soyez tout le temps sur le point de devoir être prêt au combat à chaque instant, etc. » C'est plutôt de veiller à ne pas être déconnecté de, je dirais, de ce monde spirituel, que ce qu'on est en train de vivre ici, nos petites histoires humaines qui nous semblent gigantesques, mais en réalité, c'est inscrit dans l'histoire, mais gigantesque de Dieu lui-même. Et quand je suis avec des Africains, et j'ai un collègue que j'aime énormément, on commence à prier, puis il dit toujours, « Merci mon Dieu, parce que tu es aux commandes. Tu es aux commandes de ce qui est en train de se passer dans le monde. » Et il en est sûr. Et c'est cette dimension, en fait, d'espérance. Et quand le ciel devient tout noir, et qu'on a l'impression que le plafond descend dans nos vies, une toute petite fenêtre sur le ciel bleu et le soleil qui brille nous dit qu'il y a un autre monde, un autre jour qui va venir. C'est notre espérance et une espérance qui va jusque dans l'éternité. Et puis, j'avais envie de vous faire passer un petit bout du Seigneur des Anneaux et qui parle justement d'espérance. Ça parle du... comment on appelle de l'héros principal. C'est un petit héros, parce que c'est un hobbit, donc c'est un film fantastique, qui doit faire quelque chose de très important, qui va vaincre le mal de toute une région d'où il habite. Et il est accompagné d'un côté par Sam, et on pourrait dire, pour moi, je prends Sam comme le vrai moi, le nouvel homme qui espère, qui est rempli du Saint-Esprit, et c'est lui qui va parler. Puis il est accompagné de l'autre côté de Gollum, qui représente le vieux moi, celui qui est appelé à être tué, parce qu'il nous pousse toujours de ne pas dépendre en fait, du bien, de ce grand bien qu'est notre Dieu. Alors je vais vous passer ce petit bout, parce que moi il me parle beaucoup de l'amitié, mais aussi de l'espérance. Voilà. Merci.
Je n'y arriverai pas, Sam.
Je sais. C'est injuste. D'ailleurs, on ne devrait même pas être là. Comme dans les grandes histoires, monsieur Frodon. Celles qui importaient vraiment. Celles où il y avait danger et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin. Car elle ne pouvait pas être heureuse. Comment le monde pouvait-il redevenir comme il était avec tout le mal qui s'y était passé ?
Victoire ! À nous la victoire !
Et en fin de compte, elle ne fait que passer, cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'était ces histoires dont on se souvenait et qui signifiaient tellement. Même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Mais je crois, monsieur Frodon, que je comprends. Je sais maintenant. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de s'en retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route parce qu'ils avaient foi en quelque chose.
En quoi avons-nous foi, Sam ?
Il y a du bon à ce monde, monsieur Frodon. Et il faut se battre pour cela.
Il y a du bon dans ce monde et il faut se battre pour cela. Quand on chante le dimanche matin, notre Dieu règne, parce que voilà, c'est dans mes gènes presque, j'ai tout de suite plein d'images de catastrophes et de choses terribles où je ne vois pas que Dieu règne. Mais quand je vous entends chanter de tout votre cœur, je me dis, le miracle, il est là. C'est cette espérance et cette foi qu'on a de notre Dieu, malgré ces 2000 ans d'histoire après que Jésus ait été sur cette terre, et on demeure dans cette foi. C'est parce qu'on croit qu'il y a quelque chose de bon et on se bat pour cela. Et je crois que c'est un des plus grands miracles. Aussi, quand on voit nos chers frères et sœurs ukrainiens dans les bunkers en train de lire le psaume 31 en ce moment, et que c'est le rabbin du pays qui a proposé que les chrétiens aussi lisent ce psaume, mais ce rabbin, il est les descendants de ceux qui ont été massacrés. C'est fou, cette espérance qui demeure. Et c'est à ça qu'on doit veiller, c'est que ça reste. Voilà. Pour moi, c'est cette dimension spirituelle d'être conscient de ça. Après, il nous est dit très souvent de prier différents. Alors moi, j'ai mis 5 prières types différents. Et ce matin, on a exprimé déjà notre reconnaissance et c'est juste. Il ne faudrait pas qu'on oublie à quel point on est dans un endroit privilégié. C'est presque culpabilisant. Mais la moindre des choses, c'est qu'on loue Dieu et qu'on soit reconnaissant et qu'on proclame. Puisque nous, on n'est pas au premier plan comme les autres, pour qui c'est peut-être plus difficile de proclamer la puissance de Dieu. Et puis, Jésus nous dit d'implorer pour des circonstances plus favorables et des temps d'épreuve abrégés. Et c'est marqué que les temps vont être abrégés. Et de prier sans relâche, de persévérer. Moi, ça me fait penser au... J'ai eu le privilège de connaître le grand-papa Peter Schmidt d'Alsace. J'étais toute jeune et on parlait des animaux parce qu'il était paysan. Et il disait, une prière, ça doit être comme les œufs des poules. Ça a besoin tout le temps de la chaleur de la poule. Et ça dure 21 jours et il ne faut pas partir parce que si l'œuf se refroidit, il ne va pas éclore. Et il m'a donné ça, pour moi c'est ça, prier sans relâche. Et voilà, ça me touche de me dire, voilà, cet exemple me touche beaucoup. Et toujours je reviens à ça, c'est que quand on ne sait pas comment prier, le Notre Père, il est parfait. On dit Notre Père et on rajoute les personnes ou les situations pour lesquelles on aimerait prier, que ton nom, et on peut choisir le nom adéquat à ce moment-là, le Dieu qui sauve, le Dieu avec nous, que ton nom fasse toute la différence, que ton règne vienne là, au cœur de l'Ukraine, au cœur de la Russie, mais au cœur de partout où il y a de l'hostilité en ce moment, que ta volonté s'accomplisse, celle que tu veux que s'accomplisse au milieu de tout ça. Donne-nous ce dont on a besoin, ce pain, hein, etc., etc. Et dans la prière, justement, il y a la prière de repentance, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et moi, ça me touche beaucoup cette prière de Jésus, comment il a fait pour dire pardonne-nous nos offenses, lui qui n'a jamais rien commis de mal. C'est sa part de solidarité face aux péchés du monde. Et si mon peuple, hein, celui qui porte mon nom, et ça c'est nous, hein, s'humilie, prie et me cherche s'il renonce à ses mauvaises voies. Je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et notre monde, notre pays, il est malade. Et il est malade, entre autres, de son péché. Et c'est important que de tout ce qu'on entend qui nous heurte aussi pour les questions grises, les lois bioéthiques qui sont en train de tomber les unes après les autres en Europe, hein, qu'on demande pardon pour attirer la grâce de Dieu dont on a tous besoin. Et une des façons la plus forte, la plus belle de prier aussi pour la question de l'Ukraine et de péché, et de la Russie et de toute l'Europe et du monde entier, c'est de demander pardon pour nos péchés. Parce qu'on habite des pays qui ont une arrogance qui provoque ce genre de situation. Mais vraiment, et qui provoquent que Dieu n'arrive pas à nous protéger la même chose parce qu'on ne demande pas son aide, puis qu'on est sous le joug du péché. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Demandons pardon, vraiment, pour le péché de notre pays, de l'Europe. Et voilà. Et puis, ça, c'est toutes les promesses que Jésus nous donne. Donc, dans ces textes, il y a toutes sortes de choses qui parlent de persévérance et que ça vaut la peine, comme Sam, tout à l'heure, qui nous a encouragés après la vidéo. Et puis, il nous dit, c'est Pierre qui nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous. Et qu'on ne se laisse pas distraire, qu'on soit vigilant. Il y a la promesse, mais entre les deux, c'est marqué « Veillez parce que votre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et pardon pour ceux pour qui je me répète, mais vous avez déjà vu les lions chasser, comment ils font? C'est les femelles qui chassent, ce n'est pas les mâles. Par contre, quand un mâle est seul, il a une toute autre façon de chasser que les femelles, parce qu'il doit dormir environ 23 heures par jour. Et il doit absolument garder ses forces au cas où il est attaqué par un autre lion. Donc s'il veut se nourrir, il doit économiser à fond son énergie. Et le diable qui est limité comme un lion, voilà, eh bien il fait comme ça, il rugit. On le sait seulement depuis qu'on peut voir à infrarouge la nuit, parce que le lion chasse de nuit. Il est près d'un point d'eau, il rugit et il regarde comment les animaux vont s'agiter et bouger. Et comme ça, il voit les bêtes qui sont malades, qui sont faibles, qui sont blessées, puis c'est ça qu'il va aller manger. Mais les animaux qui ne bougent pas, il ne va pas les attaquer. Pour une raison toute simple, les animaux qui ne bougent pas, elles savent qu'elles courent très vite et que quand le lion va commencer à courir après, elles vont fatiguer le lion. Et donc, elles sont sûres de leur force. Et c'est fou qu'il y a 2000 ans, on a déjà pu éclairer cette stratégie de l'ennemi qui essaie de nous agiter à travers tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Et on a reçu une image dans un temps de prière, justement, avec des personnes concernées par les questions grises. Et c'est comme si Jésus nous a dit, mais moi aussi, je suis un lion. Et quand je rugis, je suis l'autre lion face à celui qui vous attaque et il s'enfuit, lui et tous ses serviteurs. Il y a des versets qui en parlent jusque dans l'Apocalypse de cet autre lion. Et à la fin de cette prière, moi qui puise vraiment ma paix dans le Seigneur, c'est que le Seigneur arrive à me donner, parce que je dors même bien. Donc c'est dire que le Seigneur arrive à me donner sa paix, même pour que dans mon inconscient je ne sois pas agitée. J'ai eu une image, c'est celle de moi, petite fille, et Jésus me dire, tu sais, quand je rugis, il y a un seul endroit où tu peux être en sécurité, un seul. C'est contre moi, c'est entre mes pattes. Parce que si tu es ailleurs, moi je rugis, l'ennemi s'enfuit et tu te trouves en plein territoire de l'ennemi. Et ça revient au début de mon message, à l'écart, au pied de Jésus. Alors je vous montre un petit garçon qui se tient près d'un lion, il est en sécurité, si ce lion est Jésus. Là, c'est une petite fille. Voilà, je voulais terminer ce culte avec cette image pour dire, l'ennemi rugit aussi. Et Jésus, d'autant plus fort, et qui a un lieu de sécurité, c'est contre lui. Voilà, pour toutes les questions, pour toutes les anxiétés.